VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Dans une dizaine de minutes, Carrefour avec Eric Manirakiza, mais tout d'abord, le journal. Le président Barack Obama a reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche son homologue français. Et ils ont parlé, bien sûr, de la lutte contre le groupe État islamique en Syrie. Écoutons tout d'abord le président Obama.
We're here today to declare that the United States and France stand united.
Nous sommes ici pour souligner que les États-Unis et la France sont unis, totalement solidaires, pour punir les terroristes et ceux qui les ont envoyés et pour défendre nos pays, a souligné le président Obama en parlant des attentats de Paris. Et c'était l'occasion pour lui de renouveler ses condoléances au président François Hollande et à la France. Maintenant, le président Hollande.
Le président Obama et moi-même, nous avons, et c'était dès la nuit du drame, encore renforcer notre coopération, nos échanges d'informations. Et je salue aussi tout ce que nous faisons pour que les expertises des uns et des autres soient mises au service du contrôle des mouvements que peuvent emprunter les terroristes.
Le président Obama a déclaré à son interlocuteur que les États-Unis étaient prêts à fournir toute l'aide nécessaire à la France pour combattre les groupes terroristes. Continuant avec le conflit syrien, l'aviation turque a abattu un avion de chasse russe à la frontière avec la Syrie. Ankara accuse la Russie d'avoir violé son espace aérien, tandis que Moscou affirme que l'appareil était en territoire syrien. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
Les responsables militaires turcs affirment que leurs F-16 ont abattu l'avion de chasse après qu'il eut ignoré 10 avertissements en l'espace de 5 minutes. Le premier ministre turc Ahmet Davutoglu a fait savoir que son pays avait le droit d'agir contre toute violation de son espace aérien. Réagissant à cet incident, le président russe Vladimir Poutine a dit que l'appareil était en territoire syrien, à 1 kilomètre de la frontière turque quand il a été frappé et qu'il n'a jamais menacé la Turquie. M. Poutine a accusé la Turquie de poignarder la Russie dans le dos, selon ses termes, et de soutenir le terrorisme, y compris le groupe État islamique, a-t-il déclaré, lors d'une rencontre avec le roi de Jordanie, Abdullah II, à Sochi. Selon Vladimir Poutine, la Russie a noté depuis longtemps une grande quantité de pétrole et produits pétroliers qui entrent en Turquie à partir du territoire occupé par le groupe État islamique en Syrie, procurant ainsi un important soutien financier aux terroristes. L'incident aura des graves conséquences pour les relations turco-russes, a-t-il averti.
Moscou a annulé la visite en Turquie du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, qui devait avoir des consultations avec son homologue turc demain à Ankara. On passe maintenant à l'Afrique, Burkina Faso. Le 29 novembre, les Burkinabés se rendront aux urnes pour choisir leurs députés, mais aussi le successeur de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en octobre 2014. Sur place, des observateurs s'activent déjà pour assurer le bon déroulement de ces élections. D'ailleurs, à l'approche des scrutins du 29 novembre, la sécurité a été renforcée dans la capitale burkinabé. Écoutons notre envoyé spécial à Ouagadougou, Bagassi Koura.
Oui, c'est un communiqué du ministre délégué à la sécurité, Alain Jean-Claude Zagré. Un communiqué qui rappelle aux populations que le couvre-feu est toujours maintenu, le couvre-feu qui a été instauré depuis le coup d'État du 16 septembre dernier, qui va de 1h du matin à 4h du matin. Donc le ministre de la Sécurité qui rappelle donc cette mesure qui date depuis septembre. Mais aussi, le ministre de la Sécurité rappelle que les contrôles d'identité seront désormais organisés des jours comme des nuits, c'est ce que souligne le communiqué par les forces de sécurité. Donc en ce moment, dans les rues de Ouagadougou, à chaque carrefour, il y a des forces de sécurité qui contrôlent non seulement les pièces d'identité des passants, mais aussi des véhicules qui sont passés au crible, les forces de sécurité qui fouillent les véhicules donc pour s'assurer que ces élections se déroulent dans la quiétude totale.
Bagassi Koura, notre envoyé spécial au Burkina Faso. Et puis au Niger, les autorités ont décidé de reporter à une date ultérieure la tenue du Festival international de la mode africaine, la FIMA, pour raison de sécurité. Grand rendez-vous des créateurs africains, ce festival devait s'ouvrir demain à Niamey. Le point avec notre correspondant dans la capitale nigérienne, Abdul Razak Idrissa.
L'annonce du report a été faite par le promoteur du festival, le créateur et styliste nigérien Alpha Di.
Et moi, Alpha Di, et mon gouvernement, et surtout mon gouvernement, compatit à ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, dans le domaine de la paix, et ce qui s'est passé au Mali surtout. Cette compassion a été que je suis obligé d'accompagner mon gouvernement qui a décidé aujourd'hui de reporter le FIMA à une date ultérieure. Reporter pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, à côté de chez moi, au Mali, ce qui se passe aussi aujourd'hui à Difa, au Tchad, au Cameroun, en France, en Belgique, nous sommes obligés aujourd'hui de donner aussi, nous aussi, notre voix pour que la paix soit totale. J'accepte cette volonté pour que mon peuple ne souffre pas, pour que l'Afrique ne souffre pas, pour que ce festival puisse se faire dans des conditions magnifiques, pour que tout le monde puisse en bénéficier.
Dans les rangs des participants, c'est bien évidemment la déception malgré la justesse de la raison du report.
C'est terrible d'apprendre que le FIMA est reporté. On ne sait pas quand. Je ne pense pas personnellement qu'il sera renouvelé cette année, mais plutôt l'année prochaine. Je me dis qu'au nom de la paix, certes, il faut faire des exemples pour éviter d'avoir des carnages comme nous avons vu encore récemment.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, réaction très vive du gouvernement aux sanctions prises par le président américain Barack Obama contre 4 personnalités burundaises accusées par Washington de bloquer les efforts de paix dans le pays. Notamment Alain Bunyoni, ministre de la Sécurité publique, et Godefroy Bizimana, ancien chef de renseignement. La réaction de Willy Nyamitwe, conseiller principal en communication du président burundais Pierre Nkurunziza, au micro d'Eddie Isango.
Ces sanctions ne nous dérangent en aucun cas. Ce qui nous dérange le plus, c'est la campagne de médisance et de calomnie qui est orchestrée par certaines personnes, dont certaines se trouvent d'ailleurs dans le cabinet Obama, l'ambassadrice Samantha Power, qui continue à propager des rumeurs contre le Burundi. C'est cette campagne de médisance seule qui dérange, sinon ces sanctions ne nous affectent pas.
Vous parlez des campagnes de médisance, alors que les jours même où ces sanctions ont été prises, les gouvernements a interdit aux ONG leurs activités.
Non, mais je pense que étant loin de la réalité burundaise, vous voulez nous dicter comment organiser notre société. Nous avons notre façon de nous diriger et il y a des personnes qui veulent perturber l'ordre et la sérénité du peuple burundais et quand la justice les poursuit, il y a certaines voix qui s'élèvent pour crier halte. Mais quand ça se passe ailleurs, vous avez vu le terrorisme en France, vous avez vu ce qui se passe en Belgique. Quand la justice et la police prennent des mesures pour sécuriser la population, personne ne lève son petit doigt. Alors même au Burundi, il y a des personnes qui ont voulu perturber l'ordre, qui ont fait un coup d'État et qui ont échoué, et d'autres qui ont attaqué notre pays. Alors toutes ces personnes-là, ainsi que leur soutien et leur lobby, le gouvernement du Burundi et la justice peuvent prendre des mesures à leur endroit et à leur égard afin de sécuriser et de protéger la société burundaise. Cela est tout à fait normal au Burundi, aux États-Unis et partout ailleurs.
Willy Nyamitwe, qui est conseiller principal en communication du président burundais Pierre Nkurunziza. Et puis, en Algérie, incendie dans un foyer de migrants à Ouargala, dans le sud du pays. On écoute Brahim Tagrouf, directeur de rédaction du quotidien L'Expression à Alger.
Ça s'est passé plus exactement dans la wilaya de Ouargla, à près de 800 km de la capitale Alger. C'est au sud du pays. La wilaya de Ouargla est connue pour être la wilaya pétrolière. C'est le poumon pétrolier de l'Algérie. Donc ça s'est passé aujourd'hui, mardi, 3h du matin. Ça s'est passé dans cette wilaya, effectivement. C'est dramatique. Donc, vous savez, des accidents de ce genre, ils sont regrettables et condamnables. Mais c'est rare et heureusement que c'est rare. Sinon, si ce n'était pas rare, ma foi, ce serait terrible pour l'humanité.
L'Algérie est devenue une destination de choix, dirait-on, pour les migrants subsahariens depuis quelques années.
Tout à fait. Vous savez que l'Algérie actuellement est entourée par une ceinture de feu. Toutes les frontières de l'Algérie sont des zones de tension. Il se trouve que l'Algérie est une zone où il y a la stabilité économique, politique et sociale. Il est tout à fait évident que les migrants fuyant la guerre, fuyant la famine, fuyant l'insécurité, se dirigent, convergent vers cet îlot de stabilité, de calme.
Brahim Trakeroub, directeur de rédaction du quotidien L'Expression à Alger, au micro de Chérubin Dorsil. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.